Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une troisième émission sur Radio Présence pour suivre l'école d'oraison avec les carmes du couvent de Toulouse. Nous avons vu la semaine dernière ce que sainte Thérèse d'Avila disait de l'oraison et nous nous intéressons aujourd'hui à la personne qui prie. Et nous sommes aujourd'hui avec frère Élie Delacroix. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes le troisième intervenant de cette école d'oraison et comme je le disais en introduction, nous avons vu lors de la précédente émission plusieurs manières de prier et comment Thérèse d'Avila avait trouvé le moyen par l'oraison de prolonger l'action de grâce vécue à la messe. Alors, nous ne sommes malheureusement pas la grande sainte du Carmel et nous avons donc besoin de conseils pour nous mettre en de bonnes dispositions pour pratiquer l'oraison. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, frère Élie Delacroix, nous préciser qui est cette personne qui prie? Dans quelle disposition elle doit être?
Alors là, effectivement, quand on parle de l'oraison, on pense tout de suite à Dieu, normalement. Mais la personne qui prie, c'est d'abord un chrétien, un être humain, avec son histoire, avec son corps, avec son âme, avec ses difficultés, à chaque fois un petit peu différentes. Mais si on regarde la personne qui prie, il faut d'abord la regarder comment, par le regard de Dieu, si vous voulez. Comment Dieu voit cette personne qui prie que je suis, hein. Et d'abord, Dieu nous voit comme ses créatures, ses enfants bien-aimés. Donc en fait, la personne qui prie, nous-mêmes, nous devons garder à l'esprit que quand nous prions, nous sommes en relation avec notre Créateur, donc dans une relation de dépendance. Ça, c'est sans doute la première étape, j'allais dire, pour comprendre la personne humaine, hein, et pour nous comprendre nous-mêmes. Je suis d'abord quelqu'un qui dépend de Dieu et d'un Dieu qui me veut du bien.
Oui, qui m'aime par-dessus tout.
D'un Dieu qui m'aime par-dessus tout, qui m'a créé, qui m'a nourri, qui m'a amené ici, qui m'a appris à prier aussi. Et donc finalement, un Dieu avec lequel je suis en relation. Et une relation pleine évidemment de respect et d'amour, dans mon sens, mais de respect et d'amour aussi dans le sens de Dieu vers nous. Voilà.
Donc vous voulez dire que donc, la prière, c'est une relation, c'est se savoir dépendant de Dieu, Créateur, se savoir aimé de ce Dieu, et puis, qui dit relation, dit communication.
Échange, voilà.
Échange, voilà, c'est ça.
Vous avez vu la semaine dernière, je pense que la prière était une relation d'amitié avec Dieu, pour Thérèse d'Avila. Et l'amitié, c'est quelque chose de très beau, parce que c'est quelque chose qui implique une certaine ressemblance entre les deux pôles, une réciprocité, une égalité même. Et donc cette relation d'amitié avec Dieu sous-entend que Dieu se fait notre prochain, que Dieu se fait proche de nous. Et c'est le grand mystère pour nous chrétiens, le grand mystère de l'incarnation.
Oui, c'est vrai.
Où en fait Dieu s'est rendu proche de nous, semblable à nous, homme comme nous, pour nous apprendre à prier. Et donc cette relation d'amitié avec Dieu, c'est d'abord une relation avec le Christ, hein, tout simplement, qui se fait notre ami, notre égal.
Voilà. Et ça ne veut pas dire que le Christ est moins divin parce qu'il se fait notre égal.
Bien sûr, il est à la fois Dieu et homme, hein, comme nous le savons bien. Donc le Christ n'est pas moins divin, mais c'est ce qui fait que notre prière devient une action à la fois humaine, parce que c'est moi qui prie, et une action divine. Parce que quand je prie, le Christ vient à moi et prie avec moi, et il prie à la fois en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et donc la prière devient en moi une action humano-divine, on peut dire. C'est même l'Esprit Saint qui prie au plus intime de nos cœurs, hein. Nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit pousse en nous des gémissements inexprimables, dit saint Paul. C'est vraiment cette idée que la prière qui vient du plus profond de moi-même vient aussi et de Dieu. Par le Christ.
Et elle est portée par l'Esprit Saint.
Portée par l'Esprit Saint, ouais. Qui vit au plus intime de nos cœurs, voilà.
De nos âmes. Dans cette relation, dans cet état de dépendance envers Dieu, on a cet exemple de la Vierge Marie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment justement elle était dans cette relation de dépendance?
Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu de mal à se projeter dans la personne du Christ, hein, qui est une personne divine, donc qui est un petit peu difficile à saisir pour nous. Mais par contre, le grand exemple tout proche de nous, c'est la Vierge Marie, modèle de la foi. Et elle est, si vous voulez, la toute dépendante de Dieu. Elle se fait toute disposition, tout accueil. Il me semble que le grand exemple de la prière humaine, c'est l'Annonciation. Quand Marie dit « Voici la servante du Seigneur ». Voilà une bonne manière de commencer notre prière.
Voici donc c'est se mettre à la disposition.
Se mettre à la disposition de Dieu, ouvrir son cœur. La prière est une ouverture du cœur, si vous voulez. Une ouverture du cœur qui est à la fois une ouverture passive, c'est-à-dire j'accepte que Dieu agisse en moi, et puis un élan, un désir en fait profond qui va toucher Dieu. Et ça, ce sont des mouvements de fond de la personne humaine.
Et justement, parlons de ce désir, frère Élie de la Croix. Vous dites qu'il y a, effectivement, quand on fait oraison, il y a un désir de rencontrer Dieu. Et ce désir rencontre aussi celui de Dieu qui vient à notre rencontre, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Mais alors, pour comprendre le désir, il faut peut-être partir de choses plus simples. déjà, on doit concevoir la personne humaine comme un être de désir. Voilà. Donc, si souvent on a un petit peu peur de nos désirs pour tout un tas de raisons, mais si on essaie de regarder au fondement même, on se rend compte que un être humain, c'est quelqu'un qui désire. Alors, il y a déjà des désirs fondamentaux, hein, les désirs vitaux, j'allais dire, j'ai faim, j'ai
c'est
soif.
C'est des besoins.
C'est des besoins qui s'expriment par le désir, si vous voulez. Bon, ça, c'est le fondement le plus basique. Après, on a des désirs plus et des besoins, hein, parce que là, c'est le désir exprime un manque, hein, donc c'est forcément lié à un besoin. On a notamment, donc, un peu plus élevé, si vous voulez, le désir de reconnaissance, la soif d'être aimé. Qui sont des choses bonnes en soi, bien entendu. Et encore au-delà, on a des désirs plus spirituels qui sont le désir de connaître, le désir de faire de ma vie quelque chose de beau, de me donner pour une cause belle. Ça, ce sont des désirs qui font de nous vraiment des êtres spirituels
et meilleurs.
Et meilleurs. Hein, donc c'est quand même ça, c'est vraiment le plus fondamental. Mais tous ces désirs expriment en fait un désir plus profond au fond de notre cœur qui est le désir de Dieu. Et c'est du désir de Dieu que viennent tous les désirs de l'homme. Et tout le travail de l'oraison, c'est de laisser la place à ce désir de Dieu. Parce que nos désirs sont bons, ça c'est vraiment très fondamental, mais malheureusement sont souvent un petit peu désordonnés. Depuis le péché originel.
Oui.
Parce qu'il faut quand même parler du péché originel. Si vous voulez, un désordre s'est introduit dans notre âme, hein, qui fait que nos désirs, qui normalement sont tous orientés vers Dieu comme leur fin ultime, leur objectif ultime, nos désirs finalement se trompent d'objectif. Vous voyez, je sais que Dieu m'aime, je veux donc jeûner le vendredi de carême. Mais enfin quand même on me propose d'aller faire un bon repas et finalement je me dis c'est quand même mieux pour moi et donc je me trompe d'objectif et donc désirer un bon repas n'est pas une chose mauvaise en soi, c'est bon, mais c'est pas le bon moment.
Ouais,
et en fait un désir plus profond doit prendre le dessus et c'est pas ajusté. Et tout le travail de l'oraison et de la prière chrétienne, hein, c'est de retrouver la source de ce désir qui est un petit peu ensablé, de ce désir de Dieu, et de lui redonner la priorité. Alors ça annihile pas, ça ne détruit pas tous les autres désirs.
C'est ce que j'allais vous demander justement. Ouais.
Non, parce que le chrétien est quelqu'un qui vit dans le monde, hein, mais il n'est pas du monde, pour le dire comme le Christ. Ce qui veut dire qu'en fait nous sommes appelés à sanctifier ce monde, à vivre dedans, mais à orienter toute chose, tout notre être, vers Dieu. Et ça fera de nous des hommes, réellement, des êtres humains,
pleinement,
dans toute
la
plénitude de ce qu'est un être humain. Alors que si on laisse le désordre s'installer dans nos désirs, eh bien, c'est la pente du péché. Hein. Et plus on pêche, moins on est un être humain.
Alors, si on se met dans cette configuration de la prière d'oraison, on a ce désir de Dieu qui est, comme vous le disiez, frère Élie, le plus grand des désirs et qui ordonne tous les autres désirs. Comment faire cette place à ce désir de Dieu et ordonner justement ces désirs naturels qui sont bons, comme vous l'avez dit, mais qui peuvent être une entrave à ce désir de Dieu.
Alors là, on rentre dans le, j'allais dire, la cuisine de la prière, hein, la cuisine de l'oraison et puis la cuisine de la vie. Hein. Toute chose doit avoir un ordre dans notre vie. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a l'idée de créer un ordre. Au début, c'est un petit peu artificiel, c'est-à-dire qu'on part d'une situation désordonnée, où nos désirs ne sont pas bons, et puis on réintroduit un ordre, j'allais dire, par la force, entre guillemets, c'est surtout par des décisions. Donc vous, chers auditeurs, vous avez décidé de vous mettre à l'oraison, donc chaque jour, vous avez pris pour l'instant normalement 10 minutes d'oraison, c'était l'engagement auquel nous vous proposions, et l'idée, c'est que ces 10 minutes d'oraison introduisent un ordre dans votre vie. Un ordre que vous avez choisi. Parce que pour faire 10 minutes d'oraison, il faut enlever 10 minutes de téléphone.
Ah,
par exemple,
c'est difficile.
Par exemple, au hasard. et c'est difficile, mais en le faisant, ça devient plus facile. C'est comme quand on veut courir un marathon. Il faut commencer par faire un kilomètre. Et petit à petit, on augmente la quantité. Et en fait, l'idée d'installer une vie de prière régulière dans sa vie, c'est précisément la réorientation des désirs, parce qu'il faut réorienter nos actes d'abord. Oui. Nos actes d'abord. Et ça creuse en nous, si vous voulez, comme Dieu profite de ce temps de prière pour creuser en nous notre désir, justement, et notre âme, il va nous susciter des petits mouvements petit à petit. Vous voyez, j'abandonne un peu mon smartphone, je regarde un peu moins de séries, je fais attention un peu plus à vivre une mortification pendant le carême. À travailler l'ascèse, travailler la vertu. Et c'est Dieu, en fait, qui suscite en nous ces choses-là.
Mmh. Oui, donc ça veut dire que, puisque justement nous sommes en période de carême, tous ces efforts que nous souhaitons mettre en place et que nous mettons en place tout au long de ce carême, ils doivent être passés au tamis de la volonté de Dieu.
Tout à fait. C'est-à-dire que notre volonté propre, en général... nous rend plus orgueilleux. C'est-à-dire que si je fais un carême à la force du poignet en me disant je vais régler ma vie pour mettre de l'ordre, ça va rester à la fois très extérieur et bon, si, en général on n'y arrive pas, hein, donc tant mieux. Mais quand on y arrive, ça peut créer en nous une forme d'orgueil et de satisfaction. Mais en fait, si on appuie nos efforts sur un désir humble de Dieu, alors, en fait, ça change complètement le sens de l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, comme la prière est relation, hein, ça on l'a beaucoup dit, vous l'avez vu beaucoup la semaine dernière, la prière est relation, en fait, c'est mon effort n'est plus pour moi-même, il n'est plus tourné sur moi. En fait, il est tourné vers Dieu. Et donc, par là, il est saint. Et par là, il est saint. Mais le grand risque, ce serait de dire, bah, du coup, je ne fais rien. Pour ne pas prendre le risque d'être orgueilleux.
Oui.
Ah non,
en fait. Ou de chuter.
Chuter. Non, ou j'arrête l'oraison parce que je n'y arrive pas et que, en plus, ça me rend plus mauvais encore. Alors, en général, on était déjà mauvais, mais on ne s'en rendait pas compte. L'oraison fait qu'on s'en rend compte.
C'est ça, oui. Ça lève le voile.
Et c'est déjà beaucoup de s'en rendre compte. Mais petit à petit, c'est un travail qui se fait vraiment dans le temps et puis où, effectivement, c'est Dieu qui met le rythme. C'est Dieu qui met le rythme de la prière, c'est Dieu qui met le rythme de la vertu. Et c'est lui qui transforme notre vie.
C'est lui qui tient les rênes.
C'est lui qui tient les rênes. Et la prière nous apprend à lâcher les rênes.
Ah. La personne humaine, elle est cœur, corps et esprit. Est-ce que vous pouvez nous parler, frère Élie, de cette dimension du cœur ?
Alors, effectivement, le catéchisme de l'Église catholique, hein, je vous renvoie vers le numéro 2562, si vous voulez, désigne le lieu d'où jaillit la prière, et donc notre désir profond, hein, par le terme de cœur. Alors, c'est un terme qui revient dans la Bible plus de 1000 fois pour désigner le lieu d'où jaillit la prière. Hein. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, Dieu vivant. Donc, le cœur profond désigne en fait toute la personne humaine. Donc son corps et son âme, on ne peut pas séparer le corps et l'âme hein, dans la personne humaine. Toute la personne humaine est désignée par le terme de cœur dans la Bible. Et c'est de là que jaillit la prière. Pourquoi ? Parce que dans ce cœur profond, Dieu habite. Dieu habite dans notre cœur, au plus intime de notre âme, au-delà, si vous voulez, de tout ce que nous pouvons percevoir. Il fait sa demeure en nous, hein, nous le croyons. Mmh. Et en fait, tout le travail de l'oraison, tout son effet va être de revenir... à ce centre de gravité. Voilà. Nos activités multiples dans nos journées nous en font nous écarter un peu. Et puis le temps de l'oraison fait revenir toutes nos pensées, etc., tout notre être vers ce cœur profond où en fait, c'est un grand mystère, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Que Dieu qui scrute ce cœur. Hein.
Ça signifie, frère Ali, que quand vous dites on ne sait pas ce qui se passe, ça veut dire qu'on ne peut pas juger ce qui se passe dans notre prière.
Voilà.
Ça et donc c'est... La considérer comme bonne le mardi et puis détestable le mercredi.
Voilà, ça c'est une des grandes leçons des saints du Carmel. Hein. C'est que d'un certain point de vue, dans la prière, ce qui compte, c'est davantage la quantité que la qualité. C'est-à-dire que je me suis engagé à faire oraison 5 minutes, eh bien je fais mes 5 minutes quel que soit mon ressenti. Le ressenti, le sentiment est un très mauvais guide de la qualité de la prière. On pense souvent que parce qu'on a été bien silencieux, qu'on a eu des consolations dans la prière, que ça veut dire que Dieu est avec nous. Et en fait, nous ne savons pas ça, parce que c'est beaucoup plus profond que ça se passe.
Et nous ne devons pas savoir, enfin nous ne devons pas chercher à savoir.
Nous ne devons pas chercher à savoir, ouais. Parce que de toute façon... ce qui compte, c'est que cela se passe, que Dieu s'unisse à nous. Et nous, dès que nous cherchons à savoir, c'est comme vouloir entrer dans le lieu le plus sacré, si vous voulez, où seul Dieu demeure. Et nous devons nous unir à Dieu dans la foi. C'est ce qui nous a toujours appris. Hein. Et seule la foi nous enseigne que nous sommes unis à Dieu dans la prière. Seule la foi nous l'enseigne. Alors dans les moments de consolation, ce n'est pas un problème en général, mais c'est surtout dans les moments de sécheresse, où en fait on se dit « je suis loin de Dieu », etc. En fait, non, pas nécessairement. Pas nécessairement.
Ouais, on ne faut pas s'arrêter à ce sentiment où l'adage dit que le sentiment ment.
Le sentiment ment, on peut dire ça.
Alors c'est vrai que nous faisons régulièrement l'expérience que notre cœur n'est pas bon. Et comme le dit saint Paul, nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais le mal que nous ne voulons pas. Comment, frère Élie, une fois qu'on a pris conscience que ce cœur n'est pas bon, comment pouvons-nous le voir se transformer grâce à l'oraison?
Alors, c'est une question difficile,
ah.
Parce que ça prend beaucoup de temps, hein, de cette transformation du cœur. Donc, il ne faudrait pas attendre de l'oraison des résultats immédiats. En général, le premier fruit de l'oraison, si vous voulez, c'est la connaissance de soi. Donc en général, on a l'impression que notre état est pire qu'auparavant. Et en fait, prendre conscience déjà de la dureté de notre cœur, et puis au sens précis du terme, hein, c'est beaucoup plus que général, mais c'est-à-dire prendre conscience de nos fautes, et de à quel point nous sommes loin, finalement, de ce que Dieu attend de nous, c'est déjà un fruit très profond du travail de l'Esprit-Saint dans notre cœur.
De reconnaître sa pauvreté.
De reconnaître notre pauvreté. Mmh. Et donc la deuxième étape, c'est de la reconnaître devant Dieu, en particulier dans le sacrement de réconciliation, hein, et puis devant Dieu dans la prière, c'est-à-dire de se présenter à Dieu comme sa créature, mais qui a péché, qui revient vers lui. Et progressivement d'entrer dans cette relation d'amour avec Dieu, une relation d'un fils qui va vers son père et qui sait que ce père lui pardonne. Voilà. Il me semble que quand on arrive à percevoir un petit peu cette relation dans la prière, on peut déjà avoir la certitude qu'on est dans la bonne direction. Voilà, dans la bonne direction. C'est d'être en vérité devant Dieu.
Et se reconnaître pécheur, vous dites que ça passe évidemment par le sacrement de réconciliation, mais est-ce que c'est aussi une disposition qu'il est bon d'avoir pendant la prière d'oraison?
Oui. Sainte Thérèse recommandait très concrètement à ses sœurs, hein, de commencer l'oraison par réciter le « Je confesse à Dieu ». C'est assez classique, hein, comme conseil, ça n'a rien de particulièrement original. Mais c'est vrai que la base de tout, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la vérité de mon être devant Dieu. Donc il ne s'agit pas de passer l'oraison à faire un examen de conscience, parce que ce n'est pas le lieu, mais il s'agit plutôt de se reconnaître de manière générale pécheur devant Dieu. Voilà. Et comme ayant besoin de son salut. Encore une fois, hein, la relation de dépendance de la créature, hein, c'est vraiment, je crois, le fond de la vérité de l'homme, c'est que seul, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu, d'aucune manière.
D'accord. Donc commencer son oraison par un acte de contrition ou un confiteor, un je confesse à Dieu, et puis invoquer l'Esprit-Saint pour qu'il vienne éclairer et habiter notre prière.
Voilà, en général, on commence l'oraison par une petite prière, puis on fait le confiteor, c'est-à-dire l'acte de contrition. Et ensuite, après, ben là, c'est le mystère de l'oraison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières de procéder. Au Carmel, on n'est pas très amis des méthodes. On préfère donner des axes généraux de compréhension. et puis, parce que c'est un lieu de liberté, vous voyez,
ouais,
la prière,
hein,
cette relation à Dieu.
Vous pouvez quand même transmettre des trucs, entre guillemets.
Oui, des trucs, des petits secrets qui font que l'oraison, ça marche.
En tout cas, nous en avons besoin. Voilà, vous, les experts de l'oraison.
Ah, bon, alors après, il y a beaucoup de manières, mais ça, on en parlera dans la suite de ce petit enseignement, parce que c'est des techniques un petit peu en lien avec les dimensions profondes de la personne humaine. Donc, voilà. On va revenir dessus.
Eh bien, bravo, vous avez fait un super teasing. Je vous remercie beaucoup, frère Élie. On va justement se retrouver après cette pause musicale pour voir ces points concrets qui peuvent nous aider dans l'oraison. Et nous écoutons Nada Tétourbé d'après un poème écrit par Sainte Thérèse d'Avila.
Présence.
Oh,
Vivante Église, Isabelle Duché.
L'oraison engage tout notre être. Nous sommes avec le frère Élie de la Croix Carme pour cette troisième émission dédiée à l'école d'oraison. Vous nous avez expliqué en première partie que l'oraison, enfin vous nous avez parlé du cœur profond. Et là, maintenant, vous allez nous expliquer comment tout l'être justement participe dans cette prière d'oraison.
Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, nous avons donné un petit peu des généralités diverses sur la personne humaine, des grands axes pour nourrir la prière. Mais maintenant, il faut rentrer dans les secrets de la cuisine, si vous voulez. Il faut essayer de voir quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qui construisent une personne humaine, qui la structurent. Parce qu'en fait, en travaillant ces éléments, nous allons pouvoir voir très concrètement comment les utiliser pour notre prière. Voilà, tout simplement. Hein.
D'accord.
Donc là, maintenant, on va rentrer dans l'architecture de la personne humaine. Mais ne perdons pas de vue, surtout, que la personne humaine est d'abord une unité, hein, et que cette unité vient de son cœur profond, qui est le lieu où Dieu réside et où nous devons revenir dans l'oraison, même si c'est au-delà de tout ce que nous pouvons percevoir par notre intelligence ou par nos sens. Voilà, hein. Donc tout ce que je vais dire doit être quand même bien gardé dans la perspective de ce cœur profond.
Voilà. Et de cette unité.
Et de cette unité de la personne, corps et âme.
D'accord. Donc dans cette architecture de la personne humaine, par quoi voulez-vous commencer ?
Alors, déjà, on peut commencer par le plus simple, c'est que l'être humain est un être corporel et spirituel. Donc nous sommes composés d'un corps et d'une âme. On ne peut pas séparer les deux. Hein. La séparation des deux, ça s'appelle la mort. Donc en fait, il faut bien garder en tête que dans la prière, celui qui prie, c'est un corps et une âme. D'accord ? C'est pas seulement une âme. Le premier piège dans l'oraison, c'est de croire qu'il faut fuir le corps. Il n'en est rien. Dans la prière chrétienne, on ne peut prier d'ailleurs qu'avec son corps. Hein. Je connais personne qui prie uniquement avec son âme. C'est impossible.
Oui, c'est ce que nous disait le frère Benoît-Marie la semaine dernière. On ne peut pas prier sans son corps parce que sinon on serait comme des bouddhistes.
Exactement.
Qui essayent de se détacher de leur corps.
Mais dans ce cas-là, ça devient un exercice en fait, en tant que tel. Alors que nous, notre exercice, c'est la relation à Dieu.
Ouais.
Et Dieu nous a créés avec un corps. Hein, donc ça veut dire que ce corps est bon. Ce corps est bon. Donc si on garde bien à l'esprit que nous sommes un corps et une âme et que les deux fonctionnent bien ensemble dans une unité, on peut distinguer ensuite quelles sont ce qu'on appelle les puissances de l'âme, c'est-à-dire des facultés de notre âme qui sont du coup aussi des facultés de notre corps. C'est-à-dire que ce sont des facultés de l'âme qui s'exercent dans et par le corps. Alors la première faculté, si vous voulez, la plus extérieure de notre être, c'est la faculté sensible qui s'exerce dans notre corps par les cinq sens. Voilà. Donc nous sommes des êtres qui sentent, des êtres qui perçoivent, des êtres qui se reçoivent du monde extérieur, hein, parce que nous évoluons dans ce monde. Et nous sommes faits, finalement, si vous voulez, pour recevoir tout ce que nous pouvons de ce monde. Et c'est par ce monde que nous connaissons toutes choses, y compris Dieu. En fait, on n'y pense pas souvent, mais ce que nous disons de Dieu part toujours de connaissances qui sont de notre quotidien, de notre connaissance sensible. Quand je dis Dieu est amour, ma connaissance de l'amour, c'est d'abord l'amour que je perçois.
Du prochain.
Que je perçois de mes parents, par exemple, ou de mes amis. Alors, c'est un amour plus ou moins bon, hein, parce que parfois, on a des mauvaises expériences. Mais quand on dit, par exemple, Dieu est père, l'expérience de la paternité que nous avons, c'est celle que nous avons vécue. Alors, elle doit être purifiée, on fait l'expérience d'une nouvelle paternité avec Dieu. Hein. Mais enfin, tout part quand même de notre expérience sensible dans ce monde. Et c'est vrai aussi dans la prière. De l'importance, hein, donc pour la faculté sensible, de prier dans de bonnes conditions. Normalement, vous avez choisi déjà un lieu et un moment. Souvent, on conseille plutôt de prier le matin. Pourquoi ? Parce que la faculté sensible, elle est au repos. Elle est au repos, donc elle ne va pas venir troubler trop la prière, mais l'accompagner davantage. Parce qu'évidemment, si pour prier, je choisis de faire 10 minutes de pause au milieu de mes courses à 16h le mardi après-midi, dans le supermarché, ma sensibilité va être tellement noyée dans le bruit et dans ce qu'il y a
oui,
autour,
tout ce qu'on voit, oui.
Que je ne vais pas pouvoir me recueillir. C'est un petit peu l'évident. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé des monastères hein, dans l'histoire
de
l'Église.
Hein.
C'est pour que, voilà, se retirer quand même du monde pour mieux toucher Dieu. Hein. Voilà, y a quand même cette dimension fondamentale. Hein. Donc normalement, vous priez plutôt le matin, dans un lieu retiré, calme, une chapelle, votre chambre, où vous êtes seul, dans une position où vous n'avez pas mal. Si je me mets à genoux pour prier, c'est très beau, mais si au bout de 3 minutes, je ne peux penser qu'à une seule chose, c'est que j'ai mal aux cuisses, et que je ne peux plus penser à Dieu, ou même m'orienter vers lui tellement j'ai mal, évidemment, ma prière... va quand même en pâtir. Hein.
Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est la faculté sensible.
Donc ça, c'est
sensible.
La faculté sensible la plus extérieure de notre être. Ensuite, à un niveau plus profond, on distingue 3 facultés spirituelles. Donc là, vraiment, c'est, si vous voulez, c'est quand même beaucoup plus profond, mais ces 3 facultés spirituelles se reçoivent aussi de la faculté sensible. La première, c'est l'intelligence. L'être humain est un être intelligent, il est fait pour la vérité. Il est fait pour la vérité. Et comment l'être humain dit la vérité ? Bien, il la dit à partir de concepts qu'il tire du monde sensible. C'est-à-dire que mon expérience sensible me donne accès à des vérités sensibles, des vérités matérielles, et de là je peux extraire des vérités universelles. Voilà, je suis fait pour la vérité, et la vérité ultime, c'est Dieu. Donc là on retrouve l'idée d'un désir naturel de Dieu dans notre intelligence. Ce désir naturel de Dieu, c'est le désir de vérité, parce que le Christ nous dit: je suis la vérité, je suis la vérité.
Et ça, c'est complètement, c'est complètement indépendant, cette intelligence, de l'intelligence dont on, enfin, comme on pourrait la comprendre aujourd'hui, à savoir par des capacités plus ou moins élevées de l'intelligence, quoi.
Oui, alors il faut, aujourd'hui, on réduit beaucoup ce qu'est l'intelligence à la pratique des sciences dites dures, les mathématiques, la physique, etc. Alors ça fait partie de l'intelligence, bien sûr, mais si vous voulez, c'est une utilisation de l'intelligence qui est insuffisante. Déjà, la pratique de la philosophie est une pratique de l'intelligence plus élevée.
Parce que toute personne est intelligente.
Toute personne est intelligente parce que toute personne humaine est intelligente par nature. Après, la manière d'exprimer cette intelligence varie d'un individu à l'autre. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Mais ce qui est profondément intelligent, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu.
Et c'est cette recherche de la vérité.
Et c'est cette recherche de la vérité. Et quand on en vient à nier qu'il existe une vérité absolue, même si on a 3 doctorats, on ne fait pas preuve d'intelligence.
Oui, c'est vrai.
Voyez,
c'est vrai. Donc là, c'est la deuxième, la deuxième faculté de l'homme, après la faculté sensible, donc c'est l'intelligence. La troisième ?
La troisième ou la deuxième faculté spirituelle, si vous voulez, c'est la volonté, qui est en nous la puissance d'aimer le bien, de vouloir le bien. Donc c'est un désir encore, hein. Intelligence, désir de vérité, volonté, désir du bien. Désir du bien. La volonté, c'est la capacité d'aimer pour nous. Et en fait, naturellement, nous aimons le bien. Et nous aimons le bien. Et dans notre vie... cet amour du bien se manifeste à tous les niveaux, hein, au niveau sensible, vous voyez, je n'aime pas avoir mal, j'aime être bien dans mon corps, j'aime bien manger, voilà, donc ça c'est vraiment le niveau le plus basique, et puis au niveau des puissances spirituelles, c'est j'aime mon bien suprême qui est Dieu, j'aime faire du bien à mon prochain, et en fait nous sommes naturellement faits pour faire le bien. Voilà, c'est pas, quand on dit que nous avons le choix entre le bien et le mal, en fait, c'est un choix qui n'est pas à stricte égalité. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes faits pour faire le bien. Et au fond de notre être, nous le savons. Et c'est pour ça que nous savons distinguer le bien et le mal, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, nous sommes attirés par le bien. Mmh. Et nous sommes créés pour lui. Donc la volonté, voilà, comme un désir du bien. Voilà, pour simplifier au maximum.
D'accord. Et donc, troisième faculté spirituelle, après l'intelligence et la volonté. La
troisième faculté spirituelle, c'est la mémoire. Alors là, la mémoire, ça peut être un petit peu complexe à comprendre pour nous. Il y a évidemment tout notre passé, hein, y compris notre passé traumatique, hein, qui rentre en compte dans notre relation à Dieu, bien entendu. Mais c'est plus que ça. C'est aussi tout notre patrimoine culturel, toutes les images que nous avons en tête. Alors là, je prends un exemple très simple pour l'oraison. Hein, pour l'oraison, vraiment, vous voyez, si vous faites oraison après avoir lu pendant une heure un super roman policier, votre oraison va être habitée par les images de ce que vous venez de lire ou de ce que vous venez de voir. Et en fait, c'est naturel pour le coup. C'est-à-dire que et tout le monde a déjà fait cette expérience-là. Hein, de l'importance, si vous voulez, de mettre la mémoire en oubli. Ça c'est une expression de Jean de la Croix, hein, oublie de tout le créer pour rentrer dans la mémoire de Dieu. et la mémoire des bienfaits de Dieu. Donc dans notre prière, voilà, on parlait de petites techniques un peu concrètes. Alors ça va être très simple, j'ai récapitulé hein, pour les trois, les trois facultés spirituelles et la faculté sensible. Donc pour le sensible, ça va être donc de choisir un bon moment, de se mettre le corps en repos dans un lieu solitaire, devant une image éventuellement, voilà, très simplement, pour que la faculté sensible soit au repos. Et puis qu'elle vienne plutôt aider la prière que l'empêcher. Pour l'intelligence, qui recherche la vérité, quelque chose de très simple, c'est de prendre l'évangile, lire l'évangile du jour, par exemple. Si je vois que mon oraison est un peu sèche ou que je ne sais pas trop comment commencer, ben je lis un bout d'évangile, soit l'évangile du jour, soit l'évangile en continu, ça peut être pas long. Il ne s'agit pas de chercher à comprendre ou à regarder le grec, l'hébreu, non.
Oui, ce n'est pas une étude
pas
de,
une
la,
étude
parole
de
Dieu.
La parole de Dieu. C'est un regard, un simple regard sur la parole de Dieu, un regard contemplatif. Pour nourrir mon intelligence, parce que la parole de Dieu est vérité. Voilà.
Ça peut être s'arrêter sur une phrase, notamment.
Ça peut être s'arrêter sur un seul verset. Et puis, si ça ne marche pas, j'arrête. Voilà. Il ne faut pas forcer. On ne force pas. Dans l'oraison, on ne force jamais rien. Il ne s'agit pas de dire, je passe 5 minutes à lire la parole de Dieu, puis 5 minutes en silence. Non, non, non. Je fais un petit peu. Il faut qu'il y ait du goût. Voilà. Il faut essayer de nourrir un petit peu notre intérieur par des choses qui nous attirent. Encore une fois, le désir. Hein,
ouais,
le désir.
C'est ça, hein. Ouais.
C'est quelque chose de positif, là. Hein. La volonté, ça va être un acte d'amour. Mon Dieu, je vous aime. Voilà, mon Dieu, je vous aime.
Donc ça, on peut le répéter pendant tout le temps de l'oraison.
Voilà, ça peut être une oraison, peut être de simples répétitions, mais c'est plus un état d'esprit, si vous voulez, qu'on vise. Hein. C'est sans chercher des choses très concrètes à faire pendant les 5 minutes. C'est une attitude de l'âme. En fait, je suis là pour aimer Dieu. Voilà. Et puis la mémoire, c'est le souvenir des bienfaits de Dieu. Donc la mémoire va être nourrie, bien sûr, par la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, plus je lis la Bible, plus mon imaginaire, plus ma culture va être innervée par Dieu. Hein. Et puis, ça va être me souvenir des bienfaits de Dieu dans ma vie. Donc, si je prie en fin de journée, de me dire, ben voilà, Dieu a fait ça de beau pour moi aujourd'hui, ou il s'est passé ça, et je rends grâce pour ce moment. Et puis, la mémoire, c'est quand même quelque chose qui se travaille au plus long terme. Donc, en fait, ça doit nous inviter, et c'est là, vous voyez, qu'on rétablit un ordre dans notre vie. Ça doit nous inviter à soigner nos lectures, à soigner ce qu'on regarde, à soigner ce qu'on écoute. Et à avoir une vie humaine qui soit de meilleure qualité. C'est vrai aussi pour l'intelligence, vous voyez. Lire un bon livre de théologie de temps en temps, ou de spiritualité, ça nourrit en fait au fond l'oraison, en dehors de l'oraison, vous voyez.
Oui, oui.
C'est, donc tout ça, c'est des choses qui doivent se travailler dans toute la vie, quoi. Voilà.
Oui. Alors, il y a quand même une difficulté, puisque, en fait, on a notre nature avec toutes ces sensibilités et puis avec toutes ces facultés, qu'elles soient sensibles ou spirituelles, elles n'arrivent pas à parvenir complètement jusqu'à Dieu.
Oui, parce que pour prendre une image, il y a comme un plafond de verre hein, entre Dieu et nous. C'est-à-dire que nous sommes des créatures et Dieu est Dieu. Et donc, par nos simples capacités humaines, nous ne pouvons pas toucher Dieu. Vous voyez, nous aspirons à Dieu, de toutes nos forces, de tout notre être au plus profond, nous aspirons à rejoindre Dieu, à nous unir à lui par nos facultés. Donc la volonté, l'intelligence, la mémoire en particulier, mais aussi par notre faculté sensible, hein, malgré tout. Mais nous ne pouvons pas y atteindre parce qu'elles sont, elles sont faites pour Dieu, mais elles sont quand même très très faites pour le monde, pour la terre, pour nous aider à vivre dans ce monde en fait. Hein. Et donc par là, elles sont limitées. Donc il y a cette première limite, nous ne pouvons pas toucher Dieu par notre être naturel. Et puis la deuxième limite, on en a parlé déjà un petit peu, c'est le péché.
Oui.
C'est que le péché a introduit un désordre. Donc il n'a pas détruit nos facultés, il ne les a pas empêchées de s'exercer. Vous voyez, on peut toujours aimer Dieu, mais on l'aime moins bien. Parce qu'en fait, on est attiré par d'autres choses. Le sensible, surtout, hein, au niveau très pratique, en fait, c'est surtout la sensibilité qui est d'abord affectée. Et en fait, nos trois puissances spirituelles vont être désorientées de leur but ultime par le sensible. Et donc ça devient une vie qui est dominée par les passions, si
oui,
vous voulez. Voilà.
Mmh.
La recherche de la gloire, ça va être pour la mémoire, par exemple. Vous voyez, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'image de moi. La recherche de vanité, le faux bien. Ma volonté va se mettre à désirer des choses qui, en fait, sont mauvaises pour moi. Vous voyez, la cinquième part de gâteau de chocolat, c'est trop. Des choses comme ça, voilà. Hein.
D'accord.
Donc le péché, et puis, par nature même, on ne peut pas atteindre Dieu. Donc là, c'est à la fois, bon, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle, hein, j'allais dire.
Et alors, est-ce qu'il y a un antidote ?
Mais voilà, il y a l'antidote. Il y a l'antidote. Ce qui est très beau, voyez-vous, c'est que en fait, nous ne pouvons pas atteindre Dieu, mais Dieu peut nous atteindre. Et donc, encore une fois, hein, la prière, c'est un acte de Dieu aussi.
Et donc c'est le laisser nous atteindre.
Le laisser nous atteindre, et il l'a fait par le Christ. Le Christ, vous voyez, nous, on est fait pour le monde, hein, d'une certaine manière, et le Christ vient dans le monde. Donc en fait, les disciples l'ont touché, ils lui ont parlé, ils l'ont écouté, ils nous ont transmis. Donc en fait, c'est très humain, c'est très très incarné tout ça. Hein. Et donc effectivement, on peut atteindre Dieu par le Christ. Et donc comment est-ce que nos puissances, nos facultés spirituelles vont pouvoir atteindre Dieu ? Eh bien, c'est par la foi. Tout simplement par la foi en Jésus-Christ, qui est l'image parfaite du Père, hein, voilà. Hein. Et donc, si vous voulez, dans le plafond de verre, il y a un trou, quoi. Il y a un petit trou qui est le cœur de Jésus. Et nous, on doit atteindre ce cœur de Jésus transpercé pour que nous puissions entrer dedans et toucher Dieu. Et comment l'atteindre ? Eh bien, par la foi qui est un acte d'abord de l'intelligence, voilà. Un acte de l'intelligence. La foi, c'est je crois une vérité sans être capable de la démontrer par moi-même.
Oui, c'est ça.
Vous voyez,
ouais, c'est une relation de confiance.
C'est une relation de confiance, voilà, une relation de confiance. Et je touche le Christ et par là Dieu.
Alors pour terminer, frère Élie, la personne humaine ne vit pas seule, elle est un être de relation, vous nous l'avez dit. Comment cette dimension se marie-t-elle avec la prière d'oraison, qui est par excellence une prière silencieuse et solitaire ?
Oui, alors souvent c'est vrai qu'on a tendance à opposer un petit peu l'oraison qui serait un sport personnel, un sport individuel, et puis avec la liturgie, la messe notamment, qui serait un sport plus collectif. Et nous on oppose les deux. Alors en fait c'est complètement faux, vous avez vu la semaine dernière que pour Thérèse l'oraison c'est un prolongement de l'action de grâce de la messe. Oui. Donc en fait Thérèse découvre l'oraison dans la liturgie. Et a dit, si vous ne priez pas quand vous êtes à la liturgie, votre prière n'a aucune valeur. Donc en fait, l'oraison n'est pas un sport individuel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un sport collectif. C'est l'Église qui prie. Et quand je prie en tant que membre de l'Église. En tant que membre de l'Église. Donc ce n'est pas d'abord ma prière, c'est d'abord la prière de l'Église. Et par là, c'est ma prière. Donc c'est à la fois personnel et collectif. Mmh. Et donc comment nourrir cette dimension commune de relation de l'oraison, et puis comment apprendre à faire oraison ? Eh bien en fréquentant l'Église et la liturgie. En fait, on apprend à faire oraison en allant à la messe. Donc moi c'est vrai, voilà, quand on me demande comment est-ce que je peux apprendre à faire oraison, comment faire mieux oraison, j'arrive pas à faire oraison, moi je conseille d'abord d'aller plus souvent à la messe, ou de dire les laudes ou les vêpres. Mmh.
S'associer à la prière de l'Église.
S'associer à la prière de l'Église de tout son cœur profond, sachant que la prière de l'Église va justement prendre toutes ses prières en elle et les perfectionner. Voilà.
Donc ça, c'est le travail à faire, on va dire, les devoirs de vacances à faire cette semaine, c'est d'essayer d'aller peut-être une fois supplémentaire à la messe.
Alors ça peut être ça, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu ambitieux, parce que déjà on demande beaucoup en demandant aux auditeurs de faire oraison tous les jours, donc je ne voudrais pas imposer ce point d'effort. Non, les points d'effort très concrets qu'on peut faire cette semaine, je pense c'est plutôt sur les facultés de l'âme. Hein. Donc voilà, comment mettre en œuvre une sensibilité qui soit apaisée. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore bien trouvé un temps pour faire oraison, le bon moment, un moment calme, etc., ça c'est vraiment la priorité. Ensuite, pour l'intelligence, ça va être de si je vois que mes pensées vagabondent, voilà, pourquoi pas prendre un petit bout d'évangile, un verset, voilà. Et puis cultiver la présence de Dieu par des actes d'amour. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment très simple. On connaît tous la formule des enfants de Fatima, hein, mon Dieu, je crois, j'espère, j'adore et je vous aime. Voilà, on peut répéter ça tout simplement, mon Dieu, je crois, j'espère. J'adore et je vous aime. Et par là, on touche le Christ. Voilà, donc regardez le Christ. C'est le grand conseil de Thérèse d'Avila. Hein. Je vous demande qu'une chose, le regarder. Donc cette semaine, regardons le Christ par toutes les puissances de notre âme. Voilà.
Merci beaucoup, frère Élie de la Croix, pour vos précieux conseils pendant cette troisième école d'oraison.